Bonjour Valérie Rabault.
Bonjour.
L'actualité parlementaire tout d'abord, le projet de loi bioéthique est le dernier texte examiné à l'Assemblée avant la trêve estivale. L'article autorisant la PMA, l'article phare sur la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes a été voté. Plusieurs amendements controversés ont été rejetés. Par contre, la PMA post-mortem, le don d'ovocytes dans un couple de femmes. Que pensez-vous de ce texte? Et est-ce que, comme je l'avais demandé Jean Castex en début de semaine, l'équilibre a été garanti selon vous?
Bon, alors je sais pas. D'abord, nous sommes ravis que la PMA pour toutes ait pu être votée. Donc c'est effectivement en deuxième lecture, puis il y aura une lecture définitive qui interviendra en septembre ou en octobre. Je ne sais pas quand le gouvernement le prévoira. Donc ça, c'est quand même. C'est une avancée en termes de droit, ça change rien sur les techniques, mais c'est vraiment une avancée en termes de droit. Il est exact, nous soutenions plusieurs amendements bon, qui n'ont pas été retenus sur à la fois la technique post-mortem, mais encore une fois, on peut toujours voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Et là, quand même, il y a une avancée importante qui a été votée et qui, évidemment, il faut attendre le vote final qui interviendra à l'automne. Mais je crois qu'il faut s'en. Enfin, en tout cas, nous sommes contents de cette avancée.
Vous êtes content pour la PMA. Est-ce que malgré tout, vous auriez souhaité qu'on aille un petit peu plus loin? Même dans la majorité, il y avait des voix qui se sont élevées pour dire, à l'occasion de ce texte, eh bien, il faudrait ouvrir un petit peu plus la porte.
Mais oui, d'ailleurs, enfin, quand vous regardez les votes, on les a votés. Mais encore une fois, je souhaiterais pas qu'on ne retienne que ça. L'avancée importante, c'est de dire, il y aura dans le droit français la possibilité pour toutes les femmes, quel que soit leur statut matrimonial, quelle que soit leur situation de couple, il y aura pour toutes les femmes la possibilité de faire une PMA. Donc sur les autres amendements que vous citez, oui, nous avons soutenu même les députés de la majorité qui souhaitaient d'autres avancées, mais encore une fois, je n'aimerais pas qu'on ne retienne que le fait que ces amendements, par exemple, n'aient pas été votés.
Mais la principale avancée qui a été, elle, adoptée.
Voilà.
Sur le Covid, l'épidémie de coronavirus, il y a eu aussi les travaux de la mission d'enquête parlementaire sur l'épidémie de coronavirus. Vous avez été associé aux travaux, assisté à certaines auditions. Au moment où il y a des signes de reprise de l'épidémie, est-ce que vous pensez, au vu de ce que vous avez entendu et compris, que la France est maintenant prête pour affronter une éventuelle deuxième vague de Covid?
Alors là, vous me posez une question, je ne peux pas vous répondre, enfin, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir des messages clairs. Et depuis quelque temps, on assiste à il faut porter le masque, pas le porter. Tout ça, ça induit de la confusion. Et moi, je pense qu'il vaut mieux avoir un message clair et qu'on s'y tienne, plutôt qu'avoir toutes les semaines de nouvelles annonces. Ça répond pas totalement à votre question, je l'entends bien, mais il faut qu'on soit de nature à rassurer, en tout cas que le gouvernement soit de nature à rassurer les Français et à pas changer de pied aussi fréquemment qu'il le fait.
Alors justement,
Si
là.
j'avais un conseil, si j'avais un conseil à donner au gouvernement, c'est de dire fixez-vous une doctrine et tenez-y-vous.
Alors.
Parce que sinon, à la fin des fins, on s'y perd. Ça, c'est le premier sujet. Sur les masques, nous avons été très clairs depuis le mois d'avril. Nous avons dit, il faut pas que certains Français ne puissent pas porter le masque pour des questions de pouvoir d'achat. Donc, nous proposions qu'il y ait un quota gratuit de masques qui pourrait être distribué dans les mairies à chacun, qui soit financé par l'État, parce que l'État ne peut pas se reposer
A
éternellement sur les
priori, le
collectivités.
gouvernement a entendu et devrait cibler des livraisons de masques pour les personnes les plus en difficulté.
Oui,
Pour
non,
vous.
non, non. Je rappelle que le Premier ministre, qui à l'époque était Édouard Philippe, avait dans son discours de politique générale du 28 avril annoncé qu'un stock de masques serait distribué. Depuis le 28 avril, ce n'a pas été fait. Donc, le gouvernement actuel tente de se rattraper, mais nous disons qu'il le faut pour tout le monde. Parce que si vous commencez à fixer des règles, vous savez très bien que ça n'aura pas l'effet voulu, qu'il y aura toujours des personnes qui seront pas concernées. Donc nous disons qu'il fallait un quota de masques distribués dans les mairies pour tout le monde et que, encore une fois, on ait une règle qui s'applique à tout le monde et qui soit claire. Ça n'a pas été le cas. Et moi, j'observe qu'effectivement, le porter le masque représente un coût qui, pour certaines familles, peut devenir très élevé et, dans le fond, faire en sorte qu'elles ne puissent pas porter le porter le
masque.
Il
faut donner les moyens à tout le monde de porter le masque, qui est maintenant recommandé même en plein air. Valérie Rabault, le dernier conseil des ministres a eu lieu mercredi. C'est un peu, ça a marqué l'heure de la trêve estivale, hein, pour la classe politique. Mais le gouvernement a donné rendez-vous le 24 août pour la présentation du plan de relance. Est-ce qu'il fallait attendre jusqu'à cette date alors que les mauvaises nouvelles se succèdent? Ce matin, on apprend que le PIB français chute de 13,8% au deuxième trimestre. C'est inédit. De nombreuses entreprises accusent des lourdes pertes.
Mais oui, mais donc le gouvernement allemand a présenté son plan de relance le 3 juin. Et nous, on attend le 24 août. Non, mais c'est délirant. Deuxième enseignement de l'étude de l'INSEE qui est sortie ce matin, comme vous le disiez, sur la chute du PIB français. C'est la consommation intérieure, c'est-à-dire chez nous, qui est responsable à 90% de la chute du PIB sur le trimestre. Cela, nous le disons depuis le mois de mai. Nous avons dit au gouvernement, vous avez fait des plans de relance sectorielle, l'automobile, l'aéronautique, mais ce qu'il faut, c'est une architecture globale. On sait que notre économie repose beaucoup sur la consommation intérieure. Alors évidemment, il y a des restaurants qui ont fermé, il y a des hôtels qui ont fermé, mais il y a des moyens qu'on peut soutenir. Enfin, en tout cas, il y a un soutien qu'il aurait été possible d'apporter. Nous avions fait un plan tourisme en disant que, notamment pour les familles qui ont les revenus les moins élevés, il fallait un soutien à la consommation, ce qui est exactement ce qu'on découvre ce matin. C'est l'effondrement de la consommation intérieure qui explique à 90% la chute de notre PIB sur
justement Bruno Le Maire, ce matin, le ministre de l'économie appelle les Français à dépenser plus leur épargne pour sortir de la crise. C'est ça la bonne méthode?
Mais il peut appeler les Français à dépenser plus pour sortir de leur épargne. Quand il y a des Français qui n'ont pas d'épargne, qui ont dû être confinés, qui ont des petits revenus, qu'est-ce que vous voulez qu'ils aillent dépenser? C'était bien cette question-là de dire il faut soutenir. Nous avions proposé 250 euros à 300 euros pour les familles qui sont minima sociaux, qui n'ont plus, par exemple, le soutien des cantines scolaires qui assurent un amortisseur pour elles. Donc ça, ce sont des vrais sujets de soutien à la relance, de soutien à la consommation, que le gouvernement n'a pas voulu entendre, pour lequel on lui a fait des propositions depuis le mois de mai, qu'il a toutes rejetées, je dis bien toutes rejetées, et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est la chute de la consommation intérieure qui est la grande responsable de la chute du PIB. Donc ça, c'est pas acceptable. Et encore une fois, le gouvernement ne pourra pas dire qu'on ne lui avait pas tiré les sonnettes d'alarme sur ce point-là.
Alors justement, Valérie Rabault, est-ce que cette situation et ces propositions que vous avancez, vous n'auriez pas été tentée de les mettre en œuvre si vous aviez accepté la proposition de rentrer dans le gouvernement de Jean Castex? Vous faites partie de ces quelques femmes de gauche qui ont été sollicitées pour faire partie de la nouvelle équipe. Est-ce que vous ne vous êtes pas dit à un moment, est-ce que vous n'avez pas hésité? Est-ce que ce n'était pas le moment d'apporter votre pierre à l'édifice? Est-ce qu'il n'y en a pas besoin de toutes les bonnes volontés?
Mais on est bien d'accord que face à la crise que nous connaissons, qui est exceptionnelle, tout le monde a envie d'apporter sa pierre à l'édifice. Et moi, je suis pas là pour faire de la politique politicienne. Et quand je fais des propositions au gouvernement, on peut les faire de l'extérieur aussi, quand on est dans l'opposition. Moi, j'aimerais qu'ils l'entendent, puisque certains ont appelé un gouvernement à une union nationale. Mais l'union nationale, c'est pas un slogan. Ça doit se construire.
Et est-ce que c'était pas une preuve d'une bonne volonté d'aller vous chercher? Vous êtes
une femme de gauche. La seule preuve de bonne volonté, c'est quand vous dites, vous mettez toutes les forces politiques autour de la table et que vous tentez de bâtir un consensus. C'est ce qui s'est fait quand la France était détruite au sortir de la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu un consensus des communistes aux gaullistes qui a été construit. Le débauchage ne remplace pas le consensus, loin de là. Et en tout cas, il ne peut pas s'y assimiler. Donc moi, je suis très claire sur ma position. Je continuerai. Et notre groupe a fait énormément de propositions. On a fait un plan tourisme.
On a fait un plan de relance. Merci Valérie Rabault. Merci.
On continuera à faire ces propositions.
Je vous remercie. Bonne journée,
merci.
Valérie Rabault.
Au revoir.